Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 janvier 2024, il est exactement 15h01, c'est le dernier dimanche du premier mois de 2024, déjà vont dire certains. Pour ceux qui découvrent ou entendent ma voix à cette heure-ci, vous le savez, depuis le début de l'année, nous avons changé d'horaire dorénavant, c'est de 15 à 17 heures que nous sommes sur les ondes de CIBL. Pendant 2 heures, on va discuter, on va rigoler, on va s'amuser, on va parler de mille et une choses, vous le savez, comme d'habitude. On va parler de la Kainou. Alors, sauf si vous habitez sur Mars, et même sur Mars, a priori, vous avez entendu parler de ça. La Kainou, c'est la série dont tout le monde parle. Et aujourd'hui, c'est sur Néo-Québec, où, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, on reçoit deux des co-scénaristes de cette série-là. Série que, je pense que je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on a reçu Frédéric Pierre ici. C'est une série que j'attendais, comme beaucoup de gens. Et comme toute bonne série qui arrive comme ça, on est content. Il y a des moins contents, il y a des beaucoup contents. Mais on va parler de ça et de tout ce qu'il y a tout autour. Ça, c'est juste dans un instant.
Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches, de 15h à 17h sur CIBL.
Nos deux invités, je l'ai dit que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Alors, je commence par la dame, Catherine Souffron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue à Néo-Québec.
Merci.
C'est la première fois qu'on se rencontre.
Oui.
Donc, j'ai mille et une questions. Elle est pleine. Qu'on présente comédienne, scénariste, puisque c'est le cas avec la Kainou, mais apparemment, il y a plein d'autres choses encore. Ça, c'est, on va dire quoi, auteur aussi? On dit ça? On peut dire ça?
Auteur, autrice.
Auteur, mais autrice aussi, voilà. Et puis, qui a eu quand même une vie avant.
Une petite vie avant
la comédie. Je ne peux pas.
Avant la comédie, on a un peu moins ri, par exemple.
Oui, mais on va en parler. Accompagné de Monsieur Angelo Cadet. Bonjour Angelo. Ça va et toi-même? Content de te voir. J'ai l'impression.
L'invitation.
Voilà, ok, c'est okay. Bon, ouais, c'est parfait. Qu'on ne présente plus quand même. Attends, c'est par quoi je vais commencer, Monsieur Entertainment? Par quoi je vais commencer? Comédien, animateur, metteur en scène, qu'est-ce que j'oublie? Mannequin, bref. Le milieu culturel, c'est toi, tu as tout fait là-dedans. Permets-moi de dire ça comme ça, prends-le.
J'ai pas tout lu, tout vu, tout bu, mais oui. Je le prends.
Tu as fait tout à peu près, voilà. Merci d'être là. J'ai dit que je recevais effectivement les deux des co-scénaristes, au-delà du fait que Catherine est comédienne, personnage principal dans cette série. Comment ça va? Depuis quoi, 10 jours à peu près? Ouais, c'est ça. 10 jours que la série est sur Extra de Ici Tout TV. Comment ça va?
Merci de nous situer parce que je n'avais même pas calculé, ça fait 10 jours. On est comme dans une espèce d'effervescence où honnêtement, j'ai complètement perdu la notion du temps. Effervescence, je pense que c'est le mot qui décrit le plus mon état et la belle tempête dans laquelle je me sens.
Oui, tourbillon de bonheur, effervescence,
exact.
Engouement... Ouais. C'est du jamais vu pour nous. Là.
Vous êtes surpris?
Agréablement surpris.
Oui, parce qu'on met tout notre cœur dans quelque chose avec l'espoir que les gens seront au rendez-vous. Et là, on accouche de ce bébé et les gens sont au rendez-vous. Donc oui, nécessairement, il y a une surprise et un bonheur immense.
Alors, vous avez inscrit dans le paysage télévisuel, pour ne pas dire culturel, une nouvelle famille, la famille Hélène Prosper, parce qu'on entendait souvent, on sait que c'est...
Honoré Prosper,
on sait que le Québec aime beaucoup ça dans ses séries télévisées, ça se joue beaucoup, ça se bâtit beaucoup autour d'une famille. Là, maintenant, c'est avec cette famille-là. Vous êtes co-scénariste de cette série, ça fait quoi, 2-3 ans que vous êtes mis à l'écriture,
grosso modo, trois ans.
Voilà, avec cette idée, et je vous attendais impatiemment pour que je comprenne ce que vous voulez dire, avec derrière l'idée du Black Joy. C'est quoi le Black Joy?
L'émancipation, le bien-être de vivre, tout ce qui touche ne touche pas le misérabiliste, tout ce qui touche pas les gangs, tout ce qui touche pas les crimes, tout ce qui touche pas nos malheurs qu'on connaît, qui sont étalés de long à large sur les réseaux, sur les médias, et tout ce qu'on sait, qu'on vit à travers notre éducation, nos parents, notre jeunesse, notre richesse de la culture. C'est le Black Joy. Et à travers la joie, l'humour, on peut aussi penser les peines. On peut aussi, gérer les douleurs à travers l'humour. Mm-hmm. Et il y a les non-dits. L'humour est un vecteur incroyable. Mm-hmm. Et le Black Joy était incontournable pour nous. Quand on a décidé que c'était la voie unique à prendre...
Mais aussi, je pense, pour moi, on peut parler de nos souffrances, et c'est tout à fait légitime, mais quand j'essaie de me voir, ma famille, moi, quand on se réunit, là, c'est chanson, c'est chanter, c'est danser, on parle fort, c'est cette joie de vivre que moi, je voulais voir traduite dans mes écrans. Moi, je suis une grande fan de télé québécoise et je suis capable de m'identifier là, avec des personnages blancs, mais ça résonne pas pareil quand tu te vois ainsi représenté que par le clan Honoré Prosper. C'est ça, c'est notre lumière. Les Haïtiens, on est lumineux, on a une joie de vivre qui est indescriptible, une musicalité à notre être. Et c'est ça que je voulais voir représenté dans notre écran, nos écrans.
Lorsque j'ai reçu votre collègue Frédéric Pierre, il y a quelques mois, c'est l'année dernière, je lui parlais de la responsabilité. Quand on embarque dans l'écriture d'une série comme celle-là, où... Que vous le vouliez ou non, vous allez représenter, à travers votre série, vous allez représenter une communauté. Et là, on parle, par exemple, famille haïtienne, donc communauté haïtienne. Est-ce qu'il y a une pression dès le début, quand on écrit, où on se dit non, nous, notre cap, c'est faire rire, on va avec ça?
Nécessairement, il y a une pression. On est noir, il y a une pression. Un devoir de réussite. Mm-hmm. On est en train de contribuer à frayer un sentier pour nous, mais pour les autres aussi. Et je pense qu'être noir, c'est être conscient de ça, dans tous les spectres de notre vie. Je veux dire, un exemple aussi banal, je sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin, dans les nouvelles, quand il y a un crime, quand il y a un nouveau terroriste, peu importe, un de mes premiers instincts, c'est de dire « j'espère que ce n'est pas un noir ». Parce que tout ce qu'on fait rejaillit sur le reste de la communauté, bon comme moins bon. Alors, pour répondre simplement, oui, on la ressent, mais il n'y a pas de diamant qui est créé sans pression non plus. Okay. Alors, la pression, on peut aussi la prendre comme ça.
J'aime beaucoup l'expression, oui.
On peut aussi la prendre comme ça pour nous pousser à nous élever. Mmh. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec la Kainou. Mmh.
Alors, je sais que lorsque la série, il y a eu la présentation à Radio-Canada, plus pour les médias, des choses comme ça. Puis, la veille, en fait, du jour où ça allait être mis en ligne, il y a eu une présentation à la Maison d'Haïti devant un parterre de différentes personnes issues de la communauté haïtienne. Vous avez discuté avec les gens à ce moment-là. Mm-hmm. Quand vous ressortiez de là, pour vous, vous saviez déjà que vous aviez réussi?
Mais c'est-à-dire que...
Est-ce que vous êtes
on avait tellement hâte. Le matin, quand on était à Radio-Canada, on avait le pouls des journalistes qui sont habitués de faire ce travail-là quotidien ou à chaque semaine. Mais là, avoir le pouls, ce pouls de la communauté, on l'attendait depuis 3 ans. Et la rencontre avec les communautés noires, elle s'est faite immédiatement parce que à l'écoute d'une émission comme ça, on sait comment on va voir où est-ce qu'ils vont réagir et tout le monde réagit au même endroit ou presque. Quand je dis ou presque, parce que des fois, il y avait des gens de la communauté qui réagissaient doublement.
Il y avait des surprises, oui, c'est ça.
Et pour nous, c'était enfin la réponse de toute cette pression-là, de toute l'écriture, de toute la réflexion qu'on a eue sur la Kainou. Parce que il faut dresser un choix, des éditoriaux pour dire voici nos thématiques, voici des choses qu'on fera, qu'on fera pas. Et je pense que ça a été bien reçu dans l'optique et dans la visée qu'on voulait. Et la réponse a été immédiate. Et on l'a vu ensuite quand les gens sur les réseaux l'expression binge-watch en rafale. Mm-hmm. Les gens, ils pouvaient pas ne pas écouter les 10 épisodes. Et en plus, ils attendaient la réponse et je suis en deuil, j'ai envie d'avoir tout de suite la deuxième saison. Dieu merci, elle a été officialisée. Mm-hmm. Mais ça a été une réponse immédiate de toute la communauté, là.
Mm-hmm. Si je peux renchérir à la Maison d'Haïti, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les gens qui sont venus nous voir pour nous dire merci. Parce que j'ai vu mes parents, j'ai vu mes grands-parents, je me suis vue. Et pas dans une caricature. Et j'ai ri. Mm-hmm. Merci. Et ça, c'est pour moi, si c'est mission accomplie. Si oui, pour moi, c'est ça qu'on voulait faire. Et on peut pas jamais plaire à tout le monde, mais si on peut faire cette différence dans la vie de certaines personnes, je pense que c'est beau. Oui.
On ne peut pas plaire à tout le monde, et ça, je vais revenir là-dessus. Mais maintenant, au-delà de la communauté haïtienne qui vous a tout de suite dit « ouais, mm-hmm. Je me suis reconnue », ainsi de suite, quels sont les retours que vous avez eus? Moi, j'ai essayé d'avoir, pour vous dire honnêtement, j'ai essayé d'avoir les coms de ici tout TV pour avoir des chiffres. Malheureusement, on m'a juste expliqué qu'on ne pouvait pas encore me donner. C'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ouais. On m'avait demandé d'attendre 2 semaines. Ouais. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu. Mais au-delà des chiffres proprement dit, quels sont les retours que vous avez eus tous les deux?
Mais je pense qu'il y a une nouvelle vague qui s'est inscrite avec les Québécois de toute origine mm-hmm. et les Québécois, entre guillemets, de souche. On le voit sur les réseaux. En tout cas, on le voit sur Instagram, sur Facebook. C'est incroyable. Des gens de toutes les régions. Monsieur de Shawinigan, de 70 ans. Tout le monde écoute la Kainou parce qu'il y a même la journaliste... de la presse,
Chantal Guy,
qui a fait un parallèle sur... Il y a toujours eu ce phénomène des histoires avec les familles québécoises, les ploufs, les bougons, tout ça, maintenant, Bon, ça, c'est son exemple.
Et c'était beau, elle dit, maintenant, on a aussi les Honoré Prospère, voilà. Comme une famille iconique québécoise, un peu,
c'était un beau clin d'œil. Voilà, puis c'était l'optique aussi d'aller vers un thème universel qui peut toucher tout le monde. Tout le monde se reconnaît entre la sandwich intergénérationnelle. T'es.
Mais je pense qu'il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux de plein de beaux témoignages. J'en ai plein en tête. Là. Mais tu sais, entre autres, la scénariste, autrice India Desjardins, je veux dire, ça m'a tellement touchée, son commentaire, parce qu'elle a mis directement le doigt dessus. Des choses qui, moi, me sont chères dans La Kainou, c'est une comédie moderne, avec une relation entre un couple qui est capable de se chicaner, mais qui s'aime, qui se chicane dans le respect et l'amour. On a un exemple d'homme noir sain. Je veux dire, on a une femme émancipée, une girl boss qui a aussi des enfants, qui peut s'épanouir en tant que femme, en tant que juriste. Ce sont tous des concepts à la fois modernes et féministes que La Kainou met aussi de l'avant. Donc, je trouve ça vraiment beau que des gens comme ça le voient et le célèbrent avec nous.
Mm-hmm. Parlez-moi un peu de votre processus d'écriture. Vous êtes quatre, hein. Vous êtes même jusqu'à quatre scénaristes là. Comment vous travaillez?
J'aimerais un peu comprendre. Je peux faire ça vraiment simple. Oui. Enfin, on commence avec la première étape, c'est un peu technique là, mm-hmm. ce segment, mais c'est ça qui est ça. Donc avec un brainstorm, donc un gros remue-ménage, on est autour d'une table, on parle de la courbe de saison. Une fois que la courbe de saison est établie, on va faire des brainstorms pour chaque épisode. Donc une fois qu'on a déterminé exactement ce qui se passe dans l'épisode 1, mettons, une des personnes de l'équipe repart avec tout ce bagage, il va écrire ce qu'on appelle un scène à scène. Un scène à scène, c'est quoi? C'est un résumé de chacune des scènes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la scène 1 en 3 lignes? Qu'est-ce qui se passe dans la scène 2 en 3 lignes? Ainsi de suite. Donc, ça, c'est comme le squelette de l'épisode. Une fois que le squelette est fait, on va se répartir les scènes. Donc, par exemple, moi, je vais faire la 1, 2, 3, 6, 8, 12. Puis Fred va faire telle autre scène et Angie aussi. Mm-hmm. Donc, voilà.
Et à quel point vos vécus personnels rentrent dans la série? Parce que là, on parle donc de famille haïtienne. Chacun va peut-être faire sa scène, mais à quel moment on se dit « Ah tiens, ça ressemble à ma famille. Ça, je ne vois pas. » C'est ça un peu que je veux comprendre. Parce que vous avez des backgrounds différents.
Oui.
Mais non seulement on a des backgrounds différents, mais on a des âges différents. Mm-hmm. Fred, sa mère est québécoise, son père est haïtien. Catherine, ses deux parents sont haïtiens, mais elle est née ici. Mm-hmm. Moi, mes deux parents sont haïtiens, mais je suis née en Haïti. Mm-hmm. Fait qu'il y avait aussi les intercalaires entre les générations, les grands-parents. Fait qu'on a des anecdotes envers ça, on a du vécu. Les parents, comment on peut les relier, que ça soit quelque chose comme j'appelle le Google Map, le 2024, à quoi ça ressemble, mm-hmm. des parents, ce profil-là. Puis aussi les enfants. Donc, il y a un écart de langage, il y a différents types de langage dans les trois. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, il fallait avoir ce pouls-là, cet écho-là. Et c'était intéressant parce que c'est comme une recherche introspective sur nous-mêmes, mais à travers aussi le touchement de notre culture, à travers aussi nos communautés. Et c'est une comédie intrinsèquement haïtiano-québécoise. Et je fais toujours le parallèle aussi que les Africains, quand ils vivent à Paris, ils ont fait un peu la même chose quand ils ont fait leur film. Ouais. C'était une résonance qui n'était peut-être pas tout à fait acceptée de l'Afrique. Ils disent, ben, c'est pas comme ça qu'on vit, nous, les Africains. Mais sauf que là, tu es à Paris, mon mec. Mm-hmm. Mais là, ici, nous autres, on est au Québec. Fait que c'est notre vision de donner ce pouls-là, ce ton-là. Mm-hmm.
Mais merci pour la passerelle, parce que tout à l'heure, vous avez dit à quel point vous avez reçu de bons commentaires, des choses comme, j'appelle même ça, de bonnes critiques. Mm-hmm. Alors, il y a aussi le sens inverse. Ça veut dire, et c'est là où Catherine disait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand j'entends ce que tu dis sur, par exemple, en France, où la communauté africaine était beaucoup plus présente, ou du moins est beaucoup plus présente qu'ici, du moins en termes de temps, c'est sûr qu'on ne représente plus ou on n'est plus comme le continent. Voilà. Et dans la Kainou, effectivement, il y a eu beaucoup d'accueil. Puis il y a aussi eu des gens qui estiment que c'est pas vraiment Haïti, les Haïtiens, ils sont pas vraiment comme ça. Puis c'est là, effectivement, avec vos backgrounds, jusqu'à quel point vous avez entendu ces critiques-là?
Vraiment, je pense que les gens viennent pas nécessairement cogner à ma porte pour dire ça, sincèrement.
Heureusement.
Mais c'est sûr que j'ai entendu des petits trucs, des bribes, mais après, moi, là, je suis vraiment déterminée et positive dans la vie. Mmh. Moi, si quelqu'un a un commentaire constructif, crois-moi que je vais m'asseoir avec toi et je vais t'écouter. Mmh. Ma porte est grande ouverte. Maintenant, je m'attarde pas non plus au négatif. Donc, et comme je dis, je pense pas que c'est à moi la première là, que les gens vont aller peut-être faire ce genre de commentaires.
Non, mais en fait, et en même temps, quand je dis genre de commentaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent estimer, je dis de manière peut-être légitime, que c'est pas eux leur vie, par exemple.
Mais en même temps, c'est, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que, oui, on a le désir de représenter la communauté, mais la communauté, c'est ça aussi le danger, ce n'est pas une voix monolithique. Nous sommes pluriel. Nous n'avons pas la prétention de représenter chacune des couleurs de l'arc-en-ciel. On a voulu faire notre interprétation de l'arc-en-ciel, mais après, il va y avoir des nuances qu'on n'aura pas su mettre à l'écran, qu'on n'aura pas eu le temps en 10 épisodes de 22 minutes de mettre à l'écran non plus. Donc, c'est correct aussi. Je veux dire, une des missions de la Kainou, c'est d'ouvrir la voie aux autres. Voilà. S'il y a un penchant là, de notre haïtienneté qui n'a pas été mis à l'écran, puis que quelqu'un qui nous écoute, puis est comme « Ah, moi, j'aurais aimé voir ça. Hey, mon ami, va écrire ta série! » Et je dis ça avec un sourire le plus authentique, parce que moi, je vais la regarder.
Oui, c'est pas en termes de défi.
C'est dans le sens où, moi, je veux dire, j'adore découvrir d'autres perspectives, mais je ne peux que parler à travers mes lunettes, mes filtres sociaux. Donc, nous, on a donné tout ce qu'on avait avec notre vécu. Puis, moi, là, je rêve qu'il y ait des bébés, la Kainou, que d'autres personnes qui me disent « Hey, vous n'avez pas abordé ça, ça, ça. » Ben, ça se peut. Et j'adorerais avoir d'autres séries de gens.
La Kainou est une révolution. Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans. J'aurais été surpris et ça m'aurait fait de la peine si ça s'était resté dans l'indifférence. Donc, pour moi, c'est normal que ça suscite des réactions et c'est normal qu'il y ait des critiques constructives, défavorables, favorables. Bon, moi, j'ai toujours eu la touche de ne pas m'occuper de quand il y avait des gens qui cherchaient à détruire les autres, peu importe la culture. Les gens qui manifestent de la haine, de la rage. T'sais, j'ai une pitié pour ces gens-là. Là. Je ne dis pas ça de façon condescendante parce que je trouve que c'est des gens qui souffrent quand les gens font ça. Je ne parle pas de notre communauté seulement. Et le fait qu'il y ait cet intérêt-là, ce débat-là, ben, ça prouve que les gens ont envie de se manifester. On est une communauté qui a longtemps été laissée pour compte. On s'est rabâché sur toutes sortes de problèmes qu'on a eus. Maintenant, on voit qu'on est en train de monter, on a des entrepreneurs, on a des gens qui émergent de toutes les façons. Il y a des émissions, références qui se font, que ce soit Pas te mentir avec, ou l'autre émission avec Mara Julie, avec la Kainou.
Après le déluge et tout ça.
Oui, c'est ça. Donc, la barre est de plus en plus haute. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'espère que, comme le dit si bien Catherine, que ça va susciter l'intérêt à d'autres personnes de vouloir créer aussi. Il y a des créateurs qui se cachent chez eux, qui sont dans leur cuisine, ils savent pas. Maintenant, ça, le plus important quand tu es créateur, c'est de sortir et passer le seuil de la porte. Mmh.
Non, mais je comprends vraiment ce que vous dites. C'est peut-être aussi quelque part, si je peux me permettre un commentaire, la conséquence de, pas de la rareté, mais le fait de pas avoir accès à la table, fait que ça crée tellement d'envie chez les gens que lorsque finalement il y a quelque chose qui survient, qui
on aimerait ça que ce quelque chose représente
tout le monde, ouais. Ce qui est toujours un peu difficile. J'avais posé la question à Frédéric Pierre sur le fait que il discutait avec toi depuis des années, vous vouliez faire quelque chose, mais qu'est-ce qui faisait que jusqu'ici il y avait rien ne se faisait? Je vous propose qu'on écoute un peu ce qu'il me répondait, ça va nourrir un peu notre discussion.
J'ai pas essuyé des refus pendant 20 ans, c'est vraiment pas ce que je dis. Mais à la question pourquoi ça s'est pas fait avant, je vous dirais je sais pas, il y a quelque chose de très sournois dans la situation des personnes racisées à l'écran, on le sait, et dans l'industrie en général. On dit qu'on a, puis c'est vrai qu'on a été tenu à l'écart très longtemps, puis on est en train d'essayer de réparer ça en ce moment.
OK.
Le fait même d'avoir été tenu à l'écart crée une problématique deuxième qu'on ne peut pas nier, c'est qu'en étant tenu à l'écart, on n'a pas le temps de se faire la main. On accumule un retard d'expertise aussi. Alors, je sais pas, j'ai pas lu des projets, mais il y a sûrement des projets dans les 20 dernières années qui ont été déposés chez les grands diffuseurs. Était-il assez fort et solide pour être financé? Je le sais pas, tu sais. Mais est-ce que, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu normal? Et c'est triste, c'est complètement insidieux et c'est complètement triste, mais c'est une des conséquences d'être tenu à l'écart d'une industrie, quelque chose. C'est qu'on accumule un retard d'expertise et j'en suis le premier à témoin parce que là, depuis 2 ans et demi, à développer cette série-là, à l'écrire, à la produire, je me rends compte de mes propres retards que j'ai dans une industrie dans laquelle je travaille depuis 32 ans. Mm-hmm. Mais en scénarisation, je suis tout neuf. En production, je suis tout neuf. Et je me rends compte moi-même à quel point j'ai besoin d'aide. Alors, il y a cet aspect-là sournois, j'imagine, qui fait que ça a pris du temps avant qu'une proposition plaise assez à un diffuseur et qu'ils aient assez confiance pour donner le go.
Voilà, pour donner le goût.
C'est ça,
pour donner le goût. La question qui suivait, c'était, d'ailleurs, je lui demandais, qu'est-ce qui fait que vous, Lacaino, tout de suite, le diffuseur a dit oui. Je lui ai posé la question, mais il n'avait pas répondu. Du moins, il m'a dit, il faut poser la question. Je vous la pose à vous tous les deux. Là. Qu'est-ce qui fait que, quand vous êtes venu avec le projet, on a dit super? Selon vous.
Je pense qu'André avait un peu répondu à la maison d'Haïti. Puis là, encore là, il faudrait... Monsieur Béraud, il faudrait qu'il réponde.
André, oui, ça, c'est le département de fiction.
Programmation de la grille.
Programmation à Radio-Canada.
Mais si je peux me permettre de paraphraser et résumer, c'était que Radio-Canada était déjà très ouvert à ce genre de projet. Ils attendaient un projet. Ils attendaient le bon fit, le bon match pour eux. Mm. Et avec Lacaïnou, ils ont aimé le propos. Ils ont vu en Lacaïnou non seulement l'haïtienneté du projet, mais le côté universel. Ils ont cru en l'équipe que Fred avait rallié autour de lui. Et le désir, le momentum était déjà parti. Donc, je pense que c'est vraiment une constellation de faits qui a fait en sorte que la fusée Lacaïnou a pu démarrer.
Mm-hmm. Angelo, vous rajoutez quelque
chose? Pendant longtemps, on nous disait tout le temps qu'on n'avait pas d'industrie, il n'y avait pas d'acteurs, il n'y avait pas de comédiens pour servir cette cause-là. Mais je pense que 20 ans plus tard, on voit que nous avons une industrie, nous avons aussi des artisans qui sont prêts à apprendre. Et puis, le phénomène aussi qui est intéressant, qui a touché Radio-Canada, c'est ce que Fred a amené, la production jumelage. Mm. Alors, ça aussi, ça donne une pérennité au projet. Moi-même, j'en fais partie du jumelage.
De ce jumelage, oui, effectivement.
En tant que directeur artistique, oui.
Moi de même.
D'accord. Ben, je vous propose, justement, on va aborder aussi cet aspect-là tout de suite après. On fait une petite pause et puis on se reparle. Oui, c'est ça. On est toujours sur Néo-Québec avec Catherine Souffron et Angelo Cadet pour parler de la Kainou. Puis je leur disais, les 10, moi c'est bon, j'ai signé. Hein. Je suis comme beaucoup. Donc, je vous le dis, là, je pose peut-être les questions. Ça fait un peu, ouais, le journaliste qui pose des questions. Moi, les 10, je les ai pris. J'attends aussi la suite. Je suis comme beaucoup. Et puis, c'est bon. Oui, j'en profite pour dire aux gens, parce que c'est sur Extra, ici, tout TV, où, effectivement, Extra, on paye. Puis c'est pas cher. Mais au-delà de ça, ceux qui ont la patience, ils attendent le mois d'avril.
Parce demain que matin, en avril.
C'est ça. Déjà annoncé, c'est demain là. Ouais. Pour le voir sur maintenant, on dit la pas, chaîne, ici. La grande chaîne, là, Radio-Canada, voilà. Normale. Première chaîne, voilà, c'est ça. Voilà. On parlait du programme que met en place Jumelage et tout ça, être jumelé. Justement, Catherine, au début, j'ai dit qu'il y a eu quand même une petite vie avant. Et je vais m'attarder un peu. Oui, parce que, effectivement, aujourd'hui, ton nom est mentionné, voilà, co-scénariste, comédienne dans la Kainou, mais il y a eu d'autres choses que tu as déjà fait. Mais quand j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé, ça ne fait même pas 10 ans que tu es dans la comédie, puisque c'est en 2018 que tu décides de plier ta mallette d'avocate, la robe et tout, la toge et tout, tu as mis ça de côté pour te lancer dans ce métier de comédie. Ouais. Question qu'on t'a mille fois posée, mais j'aimerais aussi la poser. Pourquoi?
Parce que j'ai ma base est intrinsèquement artistique. Ça m'a pris du temps à le réaliser. Mais moi, ça va sonner dramatique, mais ça se veut pas dramatique. Ça se veut simplement réaliste, en fait. Je pense souvent à la mort. Je me demande qu'est-ce que je risque de regretter sur mon lit de mort. Mm-hmm. Et à un certain point, il y avait des relents. Mon intuition me parlait. Mon intuition me chuchotait que, hey, si tu n'essaies pas de devenir, d'incarner l'artiste que tu sais être à l'intérieur, assurément, tu vas le regretter. Et je préfère vivre avec, comme on dit, des remords que des regrets. Mm-hmm. Alors, j'ai plongé parce que j'ai senti cet appel-là de laisser jaillir ma créativité.
Et tu y as réfléchi longtemps à franchir le pas?
Mais oui. Okay. J'ai fait beaucoup d'études. C'était pas facile. Hein? Je me suis rendue au point où j'étais procureure de la couronne, permanente au gouvernement, un bon salaire, un statut social. Je fais de l'argent, tout est beau. Mm-hmm. La vie est belle. Sauf qu'à l'intérieur, je ne suis pas heureuse. Je faisais des comédies musicales, du théâtre au secondaire. Je chantais quand j'étais plus jeune. Ça m'habitait. Et il y avait une partie de moi qui ne se retrouvait pas dans ce milieu un peu plus rigide. Donc, après un an, je n'étais pas complètement satisfaite, mais je me suis dit, hey, moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Hein. Donc, mm-hmm. je me dis, je vais continuer. Après 2 ans, je me dis, c'est pas encore tout à fait ça. Je continue. Après 3 ans, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère m'a trouvé, elle faisait une maîtrise à l'ENAP. Et un de ses profs, qui s'appelle Hubert Makwanda, son travail, c'est de restructurer des compagnies. Et parfois, il restructure aussi des gens.
Des gens, oui.
Et c'est tellement un homme extraordinaire. Ma mère lui a parlé, lui a dit, pourriez-vous prendre ma fille comme cliente? Avec Hubert, pendant un an, je l'ai vu une fois par mois. C'est un homme.
Ah ouais, tout un processus.
Intellectuel, mm-hmm. spirituel. Il a changé ma vie. Il m'a accueilli dans un non-jugement. C'est lui la première personne à qui il m'a demandé, Catherine, si tu pouvais faire n'importe quoi dans ta vie, sans jugement. Tu peux, il n'y a aucune limite. Qu'est-ce que tu ferais? Au bout de mes larmes, parce que je pleurais toutes les larmes de mon corps, j'ai dit, je veux chanter, écrire et jouer. Et c'est là la première fois que les mots ont résonné dans une pièce et je les ai vus, je les ai compris. Et après, à partir de là, on s'est vus une fois par mois. Il m'a fait lire des livres. On a commencé avec Le Petit Prince. On a commencé avec La Base. Et on a cheminé jusqu'au jour où j'ai donné ma démission. Et voilà, j'ai quitté pour devenir
Je connais déjà la réponse, mais est-ce que vous avez parfois des regrets?
Pas encore.
Pas encore. Parce que tout se passe bien. Il y a l'écriture, il y a la scénarisation, du moins scénariste, il y a la voix. Moi, j'ai entendu le chant. J'ai hâte, le jour où je vais voir Catherine Souffron chante quelque part, je vous dis allez-y, parce que j'ai entendu, j'ai dit, oh wow, ok.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose.
Elle a du coffre.
Franchement, j'ai dit bravo, ça, c'est inimaginable.
C'est comme une autre personne.
C'est ça, mais justement, tu as écrit pour le pacte qu'on voit sur Télé-Québec, il y a l'œil du cyclone, qui sont, par rapport à la Kainou, complètement à l'opposé. Comment la scénariste passe de l'un à l'autre, l'imagination? Comment elle
la
fait?
Scénariste, là, elle est juste en train d'apprendre. Okay. Hein? J'ai eu beaucoup d'aide.
Mais donc, apprendre en commençant comme ça, là, moi, j'aimerais bien.
Ah oui, ouais, non, ouais, mais c'est comme si je déboule avec beaucoup de gaieté les marches de ma vie d'artiste. Mmh. J'apprends là, à boucher quadruple, mais... moi, j'adore ça. Vous savez, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que dans la vie, les gens sont comme « Ah, oh, ça devait être difficile d'être avocate. C'est difficile d'être artiste. » Sauf qu'on a chacun la difficulté que je peux rencontrer aujourd'hui, le challenge, le défi, je sais que c'est le mien et j'ai envie de le relever. Donc oui, c'est le défi de scénariste, il est là. C'est Ernest Hemingway qui disait que « The only kind of writing is rewriting. » Donc, c'est ça qu'on fait. C'est que du travail, la pratique, la réécriture.
Le travail de manière régulière.
Ça prend de la passion, de l'humilité et il faut y aller. Let's go. Après, comme les enfants, il faut tomber, il faut se relever, c'est tout.
Et ce, dans tous les domaines. Parce que, justement, toi, Angelo, j'ai dit tantôt, il n'y a même plus à te présenter tellement tu as touché à tout. Mais là, dans le cadre de la Kainou, je dirais que tu t'es remis à l'apprentissage, puisque au-delà du côté co-scénariste, tu t'es mis aussi à côté, à travers jumelage, pour apprendre encore un peu plus.
Ben oui, et j'aime apprendre à la vie. Puis c'est drôle parce que sur les plateaux de la Kainou, il y a des gens de toutes les générations. Mm-hmm. Puis il y a, je ne me souviens plus son nom, mais il y a 20 ans d'âge. Puis il dit, c'est incroyable, à ton âge, tu veux réapprendre un métier. Je suis comme, oui. Mm-hmm. Et moi, j'ai fait de la direction artistique, des photoshoots, des éditoriaux, des mises en scène de Corneille, sa tournée française, tout ça. Mais ce n'est pas la même chose à aborder le travail de directeur artistique dans une série. Ça demande une témérité. Puis j'ai travaillé avec Christian Legaré, qui est un... directeur artistique aguerri, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à comment dépouiller un texte, le cahier de charge. J'ai appris à observer. Ça prend une vue d'ensemble. Il ne faut pas qu'on tombe dans les caricatures. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Christian avait besoin de moi parce que le côté culture haïtienne, ben, il fallait que c'était moi son référent.
Il fallait que ce soit incarné.
Ça. Ouais.
Puis ça allait même jusqu'aux coiffures de tous les départements, le fameux CCM, là, coiffure, costume et maquillage.
Oui, tout à fait.
On m'a demandé aussi des choses. Fait que il y avait cet apprentissage-là, mais aussi j'étais là pour donner le pouls avec tous les autres. Je n'étais pas le seul. Donc, c'est réapprendre un métier. Et c'est sûr qu'en une saison, je peux pas me dire que je suis directeur artistique d'une série, mais j'ai appris beaucoup.
Beaucoup de choses.
Et je veux peaufiner cet angle-là, ce côté-là de mon savoir. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.
Parce que de toute façon, si on veut, on va terminer là, si on veut accéder aux standards de chaînes télévision,
des grandes chaînes
de télévision, faut suivre, quoi, faut que le niveau soit élevé. Tu parlais de CCM là, puis je veux quand même qu'on en sourie un peu d'une séquence devenue iconique aujourd'hui Catherine, là, tout le monde en parle. Non, mais tu as parlé avec le cœur, mais ça touchait énormément de gens, hommes comme femmes. Moi, je veux dire, autour de moi, beaucoup de gens en ont parlé. Ce moment de vulnérabilité, mais d'une sincérité énorme, magnifique, quand tu as dit de travailler avec des coiffeuses, maquilleuses qui comprennent tous tes désirs, tous tes souhaits. Ça peut paraître banal, mais on n'imagine pas à quel point c'est important. D'avoir comme ça, de se sentir dans un espace, comme on dit, bienveillant.
Mais tu sais, c'est vraiment de se sentir la Kainou. C'est ça. Je veux dire, c'est dans les non-dits. Il y a des choses, il y a tellement de choses que tu n'as pas à expliquer. Et c'est ça. Je pouvais être simplement comédienne. Donc, je commençais, moi, avec ma tête. Je commençais tous les matins sur la Kainou. À 5 heures le matin, j'étais à la première là. Je posais ma tête sur la chaise de la coiffeuse. Je pouvais fermer mes yeux. J'avais rien à faire. J'avais pas à me demander, est-ce qu'elle va être capable de faire mes cheveux? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je devrais apporter mes produits? Non.
Il n'y avait pas de ça.
Il n'y avait rien de tout ça.
La Kainou, je dis encore, c'est sur extra.tv.
Tout.tv.
On va y arriver. Ah ouais. Vous voyez, c'est vert. Le logo vert, là. Vous allez le trouver de tout. Mais de toute façon, il suffit d'aller sur Google. Vous faites La Kainou. Voilà. Il y a tellement d'entrées que, voilà, vous allez être heureux de vivre ça. C'est 10 épisodes. Moi, je vous le dis, c'est un rafale. Après, ceux qui aime faire durer les choses, ça peut prendre un, deux, mais je suis sûr que vous allez vouloir absolument voir toute la série. Est-ce que l'écriture a commencé pour la saison 2? Vous pouvez le dire? Ouais, OK. Bon, on est entre nous, là.
Ah oui, on est entre ça, c'est ça. Hein?
Là, il n'y a personne, on est juste tous les trois. OK. Mm-hmm. Premier épisode, là. Mm-hmm. Entre nous.
On va voir nos avocats.
Ouais.
Bélissé.
Mais non, sinon vous avez déjà commencé à. Vous avez terminé l'écriture ou vous êtes en train
en processus.
Vous êtes en processus. Ouais. Hein? OK. Mais je vous souhaite.
En meeting demain, après-midi.
Mais voilà, déjà, donc c'est déjà ça. Franchement, je vous souhaite beaucoup de plaisir parce que à vous entendre, et je vous ai vu dans différentes plateformes parler de ça. On voit le plaisir que vous avez eu à travailler, à développer cette série-là. Dans ton cas, jouer. Dans ton cas, travailler derrière. Angelo, c'est quelqu'un quand même d'assez, depuis que je le connais, de très positif, très efficace, mais il n'est jamais dans l'excès, mais il y a vraiment beaucoup de plaisir. Et là, je te vois, Catherine, comment tu en parles, comment tu vis ça. On en avait besoin, moi je pars avec cette idée-là, c'est que ça fait du bien. On se plaint, et quand je dis « on », les communautés noires et racisées se plaignent de ne pas se voir dans les grands médias. Quand on les voit, lorsqu'il y a une initiative, on la prend et on dit « OK, maintenant on l'a vu, on avance ». Il y a tous les styles et je veux finir, si vous me permettez, un éditorial qui est de dire que, et tu l'as un peu dit, c'est pour ça qu'on parle des communautés. D'abord, on dit les communautés noires. C'est pas monolithique. Et si je réduis, je veux circonscrire, même ne serait-ce qu'à la communauté haïtienne. Moi, je suis venu à Montréal. Moi, je suis d'origine, je suis africain. Je vois la communauté haïtienne. Il y a une telle diversité là-dedans. Alors, quand on demande aux autres de la diversité, de nous intégrer, c'est de comprendre qu'entre nous aussi, il y a la diversité. Et il faut l'accepter. Je pouvais pas terminer cet entretien avec vous sans le mentionner parce que, contrairement à toi, où on ne vient pas toquer à la porte, on ne vient pas toquer à la porte non plus, mais mon métier me pousse à lire un peu partout. Puis parfois, il y a des choses où je dis que c'est juste un problème d'éducation et d'amener les uns et les autres à comprendre qu'on n'est pas un groupe monolithique. Il n'y a pas une case dans laquelle on met tous les Haïtiens. Il y a toutes de variétés là-dedans. Et puis voilà, c'est ce que vous avez essayé. La porte est ouverte, chacun met la pierre à l'édifice. Moi, je vous dis bravo. Merci. En même temps, je vous dis... Il y a des choses, mais je veux vous le dire hors onde. Comme tu as dit tantôt, tu es prête aux critiques.
Absolument.
Oui. On va s'asseoir, on va en parler. Mais franchement, merci beaucoup d'être venu en parler. Les gens sont contents de l'avoir. Vous l'avez dit, c'est quelque chose de local, mais aussi d'universel. Et puis voilà, on espère que ça va faire des bébés. Merci encore tous les deux.
Merci, c'était vraiment avec un plaisir.
Et puis en avril, on va encore reparler.
Yes,
parce que ce sera pour
tout le
monde.
Même comme vous ne voulez pas me dire ce qu'il y a dans le premier épisode, mais ça, c'est entre nous. Merci Angelo Cadet, merci Catherine Souffrant. C'est on se dit à bientôt. Cyril Ekwala.